Jacques Lacan. Séminaire, l'insu que c'est de l'une bévue, celle amour. Le 16 novembre 1976.
Est-ce que vous entendez? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas. Vous ne pouvez rien. Ce micro marche ou ne marche pas?
Il marche.
Quoi? Est-ce qu'il marche maintenant? Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Comment? Non, mais si le micro est là, c'est pour que le fond entende. Est-ce que le fond entend? Est-ce que là-bas on entend? Voilà. Il y a une affiche comme ça, grotesque. Est-ce que vous avez su la lire? Qu'est-ce que ça donne pour vous? L'insuccès, quand même, ça fait blabla. Ça équivoque. L'insuccès, et après, j'ai traduit l'unbewusst. J'ai dit qu'il y avait, au sens de l'usage en français du partitif, qu'il y avait de l'unbewusst. C'est une façon aussi bonne de traduire l'unbewusst que n'importe quel autre, que l'inconscient en particulier qui en français et qui en allemand aussi d'ailleurs équivoque avec inconscience. L'inconscience n'a rien à faire avec l'inconscience. Alors pourquoi ne pas traduire tout tranquillement par l'une des vues? D'autant plus que ça a tout de suite l'avantage de mettre en évidence certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige dans l'analyse des rêves qui constituent une bévue comme n'importe quoi d'autre, comme un acte manqué? À ceci près que à quelque chose où on se reconnaît. On se reconnaît dans le trait d'esprit, parce que le trait d'esprit tient à ce que j'ai appelé la langue. On se reconnaît dans le trait d'esprit, on y glisse. Là-dessus, Freud a fait quelques considérations qui ne sont pas négligeables. Je veux dire que l'intérêt du trait d'esprit pour l'inconscient est quand même lié à cette chose spécifique qui comporte l'acquisition de la langue. Pour le reste, est-ce qu'il faut dire que pour l'analyse d'un rêve, il faut s'en tenir à ce qui s'est passé la veille? Ça ne va pas de soi. Freud en a fait une règle, mais il conviendrait quand même de s'apercevoir qu'il y a bien des choses qui non seulement peuvent remonter plus haut, mais qui tiennent ce qu'on peut appeler le tissu même de l'inconscient. Est-ce que l'acte manqué aussi, c'est une affaire qui doit être analysée étroitement, selon ce qui s'est passé, non pas la veille, mais cette fois-ci dans la journée, c'est vraiment quelque chose qui pose question. Cette année, disons que avec cette insu que c'est de l'une bévue, j'essaie d'introduire quelque chose qui va plus loin, qui va plus loin que l'inconscient. Quel rapport y a-t-il entre ceci qu'il faut admettre, que nous avons un intérieur, qu'on appelle, comme on peut, psychisme par exemple. On voit même Freud écrire endopsychique. Ça ne va pas de soi que la psyché se soit endo. Ça ne va pas de soi qu'il faille endosser cet endo. Quel rapport y a-t-il entre cet endo, cet intérieur, et ce que nous appelons couramment l'identification? C'est ça, en somme, que sous ce titre qui est comme ça, fabriqué pour l'occasion. C'est ça que je voudrais mettre sous ce titre. Parce que il est clair que l'identification, c'est ce qui se cristallise dans une identité. D'ailleurs, ce fication dans le français est en allemand autrement énoncé, identifizierung. Freud, dans un endroit où j'ai été le retrouver parce que je me souvenais pas que j'avais fait un séminaire sur l'identifizierung. Je me souvenais quand même de ce qu'il y avait dans le chapitre. Je ne savais pas que j'y avais consacré une année. Mais je me souvenais qu'il y a pour Freud au moins trois modes d'identification, à savoir l'identification auquel il réserve, on ne sait pas bien pourquoi, la qualification d'amour. Amour, c'est la qualification qu'il donne à l'identification au père. Qu'est-ce que c'est que, d'autre part, ce qu'il avance d'une identification faite de participation? Il appelle ça, il épingle ça de l'identification hystérique. Et puis, il y a une troisième identification qui est celle qu'il fabrique d'un trait que j'ai autrefois, comme ça, on avait gardé quand même le souvenir sans savoir que j'avais fait tout un séminaire sur l'identification d'un trait que j'ai appelé unaire. Ce trait unaire nous intéresse parce que, comme Freud le souligne, c'est pas quelque chose qui a à faire spécialement avec une personne aimée. Une personne peut être indifférente et un trait unaire choisi comme constituant la base d'une identification. Je ne suis pas indifférent puisque c'est comme ça que Freud croit pouvoir rendre compte de l'identification à la petite moustache du Führer. Donc chacun sait qu'elle a joué un grand rôle. C'est une question qui a beaucoup d'intérêt parce que il résulterait de certains propos, enfin, qui ont été avancés, que la fin de l'analyse serait de s'identifier à l'analyste. Pour moi, je ne le pense pas. Mais enfin, c'est ce que soutient quand même Dalit. Et c'est très surprenant. Dalit, j'ai dit. À quoi donc s'identifie-t-on à la fin de l'analyse? Est-ce qu'on s'identifierait à son inconscient? C'est ce que je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que l'inconscient reste je ne dis pas reste éternellement parce qu'il n'y a aucune éternité. Reste l'autre. C'est de l'autre avec un grand A qu'il s'agit dans l'inconscient. Je ne vois pas que on puisse donner un sens à l'inconscient si ce n'est de le situer dans cet autre porteur des signifiants qui tire les ficelles de ce qu'on appelle imprudemment. Imprudemment parce que c'est là que se soulève la question de ce qu'est le sujet à partir du moment où il dépend si entièrement de l'autre. Alors, en quoi consiste ce repérage qu'est l'analyse? Est-ce que ça serait ou ça ne serait pas s'identifier en prenant ces garanties, une espèce de distance, s'identifier à son symptôme? Avancer que le symptôme, ça peut être, c'est monnayable, c'est courant, ça peut être le partenaire sexuel. C'est dans la ligne de ce que j'ai proféré sans que ça vous fasse pousser des cris d'orfraie, c'est un fait. J'ai proféré que le symptôme pris dans ce sens, c'est, pour employer le terme de connaître, c'est ce qu'on connaît. C'est même ce qu'on connaît le mieux, sans que ça aille très loin. Connaître n'a strictement que ce sens. C'est la seule forme de connaissance prise au sens où on a avancé que il suffirait qu'un homme couche avec une femme pour qu'on puisse dire qu'il la connaît, voire inversement. Comme, malgré que je m'y efforce, c'est un fait que je ne suis pas femme, je ne sais pas ce qu'il en est. De ce qu'une femme connaît d'un homme. Il est très possible que ça aille très loin. Mais ça ne peut tout de même pas aller jusqu'à ce que la femme crée l'homme. Même quand il s'agit de ses enfants, il s'agit de quelque chose qui se présente comme un parasitisme. Dans l'utérus de la femme, l'enfant est parasite. Et tout l'indique. Y compris le fait que ça peut aller très mal entre ce parasite et ce ventre. Alors, qu'est-ce que veut dire connaître ? Connaître veut dire savoir-faire avec ce symptôme. Savoir le débrouiller, savoir le manipuler, savoir ça a quelque chose qui correspond à à ce que l'homme fait avec son image, c'est imaginer la façon dont on se débrouille avec ce symptôme. Il s'agit ici, bien sûr, du narcissisme secondaire, le narcissisme radical, le narcissisme qu'on appelle primaire, étant dans l'occasion exclu. Savoir y faire avec son symptôme, c'est là la fin de l'analyse. Il faut reconnaître que c'est court. Ça ne va vraiment pas loin. Comment ça se pratique? C'est bien entendu ce que mes forces, comme ça. C'est bien entendu ce que je m'efforce de véhiculer dans cette foule. Je ne sais pas avec quel résultat. Je me suis embarqué dans cette navigation. Enfin, comme ça, parce que dans le fond, on m'y a provoqué. C'est ce qui résulte de ce qui a été publié par je ne sais quelle série spéciale d'Ornicard sur la scission de 53. J'aurais été certainement beaucoup plus discret si la scission de 53 n'avait pas eu lieu. Oui. La métaphore en usage pour ce qu'on appelle l'accès au réel, c'est ce qu'on appelle le modèle. Il y a un nommé Kelvin qui s'est beaucoup intéressé à ça. Lord même, qu'il s'appelait, Lord Kelvin. Il considérait que la science, c'était quelque chose dans lequel fonctionnait un modèle et qui permettait, à l'aide de ce modèle, de prévoir quels seraient les résultats. le résultat du fonctionnement du réel. On recourt donc à l'imaginaire pour se faire une idée du réel. Écrivez alors se faire une idée, j'ai dit. Écrivez-le sphère pour bien savoir ce que l'imaginaire veut dire. Ce que j'ai avancé dans mon nœud borroméen de l'imaginaire, du symbolique et du réel, m'a conduit à distinguer ces trois sphères. Et puis, ensuite, à les renouer. Il a fallu donc que je passe de ces trois boules. Il y a les dates. J'ai énoncé le symbolique, l'imaginaire et le réel en 54. J'ai intitulé une conférence inaugurale de ces trois noms. Devenu en somme par moi ce que Frege appelle nom propre. Fonder un nom propre, c'est une chose qui fait monter un petit peu votre nom propre. Le seul nom propre dans tout ça, c'est le mien. L'extension de Lacan au symbolique, à l'imaginaire et au réel est ce qui permet à ces trois termes de consister. Je n'en suis pas spécialement fier. Je me suis après tout aperçu que consister, ça voulait dire quelque chose, c'est à savoir qu'il fallait parler de corps, qu'il y a un corps de l'imaginaire, un corps symbolique, c'est la langue, et un corps du réel dont on ne sait pas comment il sort. C'est pas simple. Donc la complication vient de moi. Mais elle est dans ce dont il s'agit. C'est parce que j'ai été, comme dit l'autre, confronté avec l'idée que supporte l'inconscient de Freud que j'ai essayé non d'en répondre, mais d'y répondre de façon sensée. C'est-à-dire en n'imaginant pas que cette avision, dont Freud s'est avisé, c'est ça que je veux dire, que cette avision concerne quelque chose qui serait à l'intérieur de chacun. De chacun de ceux qui font foule. et qui croient être de ce fait une unité. On a traduit cette notion de foule que veut bien dire massenpsychologie. On l'a traduit psychologie collective et analyse du moi. Rien n'y fait. Freud a beau prendre expressément son départ de ce que Gustave Le Bon a appelé nommément psychologie des foules, on traduit par psychologie collective. Une collection. Une collection de perles, sans doute. Chacun en étant une. Alors que ce dont il s'agit, c'est de rendre compte de l'existence dans cette foule, de quelque chose qui se qualifie moi. Qu'est-ce que ça peut être que ce moi? C'est ce que, pour essayer de vous l'expliquer, j'ai essayé d'imaginer cette année l'usage de ce qu'on appelle une topologie. Une topologie, comme vous pourrez le saisir, rien qu'à ouvrir quoi que ce soit qui s'appelle topologie générale, une topologie, ça se fonde toujours sur un tore. Même si ce tore est à l'occasion une bouteille de Klein. Car une bouteille de Klein est un tore qui se traverse lui-même. J'ai parlé de ça il y a bien longtemps. Ici, vous voyez que dans ce tore, il y a quelque chose qui représente un intérieur absolu. Quand on est dans le vide, dans le creux que peut constituer un tore. Ce tore peut être une corde, sans doute, mais une corde elle-même se tord. Et il y a quelque chose dessinable comme étant l'intérieur de la corde. Vous avez à cet égard à déployer ce qui s'énonce comme nœud dans une littérature spéciale. Thank you. Alors, il y a évidemment deux choses. Il y a deux espèces de trous. Le trou qui s'ouvre à ce qu'on appelle l'extérieur. Ça met en cause ce dont il s'agit quant à l'espace. L'espace passe pour étendu quand il s'agit de Descartes. Mais le corps nous fonde l'idée d'une autre espèce d'espace. Ça n'a pas l'air tout de suite d'être ce qu'on appelle un corps. Ce tort en question. Mais vous allez voir qu'il suffit de le retourner, non pas comme se retourne une sphère, parce qu'un tore, ça se retourne d'une toute autre façon. Si ici, par exemple, je me mets à imaginer que c'est une sphère qui est à l'intérieur d'une autre sphère, je n'obtiens rien qui ressemble à ce que je vais essayer de vous faire sentir maintenant. Si je fais un trou dans l'autre sphère, si je fais un trou dans l'autre sphère, cette sphère-là va sortir comme un grelot. Mais c'est un tort. C'est un tort, c'est-à-dire que il va se comporter autrement. Une simple chambre à air, une chambre à air d'un petit pneu que vous vous appliqueriez à mettre à l'épreuve. Vous verrez alors que reste. À cette façon. Vous voyez comme je m'appelle à le manipuler. Reste à cette façon. De s'enfiler, si je puis dire. Dans ce coffre, a lui issu la coupure. La coupure que nous avons pratiquée ici. Et que si j'ai poursuivi à supposer que la coupure vienne ici, se rabattre, s'inverser,
coupure milieu de bande.
Qui est différent en apparence du tort, car c'est bel et bien un tort, quoique vu cette fois-ci en coupe. C'est bel et bien un tort, exactement comme si nous coupions ici le tort dont il s'agit. Je pense qu'il ne vous échappe pas que à rabattre ceci. Jusqu'à ce que nous bouclions le trou que nous avons fait dans le temps, c'est bel et bien la figure qui suit que nous obtenons. Ça ne semble pas ravir, si je puis dire, votre consentement. C'est pourtant tout à fait sensible. Il suffit de faire un essai. Vous avez ici deux temps dont l'un représente ce qui est advenu alors que l'autre est l'original. Si vous sur un de ces temps c'est or couplé de la même façon. Ceci va nous conduire à autre chose. sur un set or couplé. Vous pratiquez. La manipulation que je vous ai expliquée ici, à savoir que vous y fassiez une coupure. Vous obtiendrez de quelque chose. Traduit comme ceci, à savoir que les torts étant couplés, vous avez à l'intérieur d'un de ces torts un autre tort. Un tort qui est la même espèce. Celui que j'ai décidé ici, ce qui désigne ceci, c'est ici. Vous voyez bien que du premier temps. Ceci est du premier temps à ici ce que j'appelle son intérieur. Quelque chose dans le temps s'est retourné exactement en continuité avec ce qui reste d'intérieur dans ce premier tort. Ce tort est retourné en ce sens que désormais son intérieur et ce qui passe à l'extérieur. Alors, pour désigner celui-ci comme étant celui autour duquel se retourne celui ici, nous nous apercevons que celui qui et lui rester inchangé, c'est-à-dire qu'il a son premier extérieur, son extérieur tel qu'il se pose dans la boucle, il a son extérieur toujours à la même place. Il y a donc eu de l'un d'entre eux retournement. Je pense que quoique ces choses soient fort incommodes, soient fort inhibées à imaginer, je pense quand même vous avoir véhiculé ce dont il s'agit dans l'occasion. Je veux dire que je me suis fait, je l'espère, entendre pour ce dont il s'agit. Il est tout à fait remarquable que n'est pas quoi que ce soit littéralement un tort n'est pas la même forme. À savoir que ça se présente comme une trique. C'est une trique qui n'en reste pas moins pourtant un tort. Je veux dire que, comme vous l'avez dit aussi, ce qui chose qui n'a plus rien à faire avec la première présentation, celle nous, les deux torts. Ça n'est pas pas la même sorte de chaîne du fait du retournement de ce que j'appelle dans l'occasion le premier temps. Mais par rapport à ce premier temps, par rapport au mais, que vous avez quelque chose comme ça par rapport au même le tort tric si nous nous souvenons du même. Le tort pris vient d'ici. C'est-à-dire que pour appuyer les choses, le trou qui est à faire dans le tore. Celui que j'ai désigné peut être fait en n'importe quel endroit du tore, jusque et y compris couper le tore. Car alors, il est tout à fait manifeste que ce tort coupé peut se retourner de la même façon et que ça sera en joignant deux coupures que nous obtiendrons cet aspect. En d'autres termes, en coupant ce corps ici, on obtient ce que j'ai appelé la présentation entrique de la même façon. C'est-à-dire que quelque chose qui se manifestera dans le tore par deux coupures permettra un rabattement exactement tel que c'est en joignant une coupure et non pas en fermant la coupure unique, celle que j'ai faite ici, c'est en joignant donc deux coupures que nous obtiendrons cette trique, ce que j'ai appelé ce terme, encore que ce soit un tort. Voilà ce que aujourd'hui. Et je conviens que ça n'est pas nourriture facile, mais ce que j'aimerais la prochaine fois, à savoir dans le deuxième mardi de décembre, ce que j'aimerais entendre la prochaine fois, de quiconque d'entre vous, c'est la façon dont de ces deux du tort. Y est-on adjoint un troisième qui, lui, est celui supposé que nous ayons un temps dans un autre temps. La même opération est concevable pour les deux temps, à savoir des coupures faites dans celui-ci et d'une coupure au distinct, puisque ce n'est pas le même temps, fait dans celui-là. Il est, dans ce cas, tout à fait clair. Je vous laisse à concevoir que le repliement de ces deux temps nous donnera une même trique, mais à ceci près que dans la trique, il y aura un contenu analogue. À ceci près, pour les deux cas, cette fois-ci, l'intérieur sera à l'extérieur, et de même, pour celui-ci, veut dire pour le temps qui est à l'intérieur. Comment vous poserai-je la question? Comment identifier, car c'est distinct, comment identifier l'identification hystérique, l'identification amoureuse dite au père, et l'identification que j'appellerai neutre, celle qui n'est ni l'une ni l'autre, qui est l'identification à un trait particulier. Un trait que j'ai appelé, c'est comme ça que j'ai traduit le Einzigen Zug, que j'ai appelé à n'importe quel trait. Comment répartir ces trois inversions de temps homogènes, donc, dans leur pratique, et en plus qui maintiennent la symétrie, si je puis dire, entre un tort et un autre. Comment les répartir? Comment désigner d'une façon homologue l'identification paternelle, l'identification hystérique, l'identification à un trait qui soit seulement le même. Voilà la question sur laquelle j'aimerais la prochaine fois que vous ayez la bonté de prendre parti.